chose vraiment profonde et importante à partager. Et je veux qu'on se prépare spirituellement pour recevoir la parole de Dieu. Combien de vous, vous croyez que la Bible est inspirée de Dieu?
Amen.
Est-ce que vous êtes convaincus de ça?
Amen.
C'est vraiment inspiré de Dieu. Et j'ai eu, vraiment, méditant la parole cette semaine, j'ai eu un genre de révélation profonde dans mon cœur. Je partageais ça vendredi soir avec ceux qui font l'école biblique Vie Victorieuse. Mais vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a pris avec ses propres mains, il a pris de la terre, de la boue, quand il a formé l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a respiré. Il a mis le souffle de lui-même dans les narines d'Adam. Et Adam est devenu un être vivant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça me montre? C'est qu'il y a de la vie dans le souffle de Dieu. Quand Dieu respire, ce qui sort de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Si vous avez besoin de la vie, vous avez besoin du souffle de Dieu. Et c'est ça que nous voyons. Il a respiré, il a soufflé dans les narines d'Adam, et Adam est devenu un être vivant. La terre est devenue quelque chose, n'est-ce pas? Le souffle de Dieu. Quand Jésus était ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Il a soufflé sur eux et il a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Mais la Bible dit, on voit cela, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et le mot « inspiré » veut dire littéralement quoi? Le souffle de Dieu, respirer de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Et il faut qu'on réalise qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que c'est Dieu qui respire. Et si on reçoit sa parole, ce n'est pas un livre. Le livre n'est pas éternel. Vous voyez, mon livre là il commence à être pas mal abîmé. Le livre, un jour, va disparaître, mais sa parole, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, est pour toujours et éternellement établie dans les cieux. Tout ce que Dieu a dit, chaque chose qui est sortie de la bouche de Dieu, sans exception, à chaque fois que Dieu a parlé, ses paroles ont été établies dans les cieux. Sa parole est éternelle, plus dure et plus sûre. Plus durable et plus sûr que qu'est-ce que nous voyons avec nos yeux, de qu'est-ce que nous pouvons toucher avec nos mains, de qu'est-ce qu'on peut sentir avec notre nez, qu'est-ce qu'on peut goûter avec la langue. Les cinq sens sont merveilleux, mais laisse-moi vous dire que qu'est-ce que Dieu a dit qui est invisible et plus réel que qu'est-ce qu'on peut sentir, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut goûter ou qu'est-ce qu'on peut voir. Amen. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que ce matin, nous allons lire les paroles de vie. Nous allons lire qu'est-ce que Jésus a dit. Nous allons lire la parole inspirée de Dieu. Le souffle de Dieu va entrer en nous si on le laisse entrer. Amen? Donc, vous avez le choix. Soit de laisser le souffle de Dieu entrer en vous et de vous donner la vie, ou de rester fermé et de laisser les paroles entrer entre vos oreilles, mais s'arrête là. Combien de vous voulez recevoir le souffle de Dieu ce matin? Amen. C'est pourquoi on va faire cette petite déclaration qu'on aime faire à la vie comblée. Si vous avez une Bible, je vous encourage à prendre votre Bible. Sinon, il y a une feuille avec presque tous les versets que nous allons lire qui sont marqués là-dessus. Mais on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir le souffle de Dieu, la parole inspirée de lui. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez dit cela et si vous l'avez cru, vous allez être changé et transformé. Amen. Hallelujah. Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter à aller avec moi à 1 Corinthiens chapitre 11. Et on va parler d'une recette de santé pour ton être entier. Combien de vous voulez être en santé? Pas juste physiquement, mais spirituellement, émotionnellement et physiquement. C'est beaucoup plus de fun d'être en santé que d'être malade. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai déjà été malade, j'ai déjà marché dans la santé, et je vous dis, sans exception, c'est toujours plus agréable, et c'est plus fructueux même, d'être en santé que d'être malade. pas juste pour moi-même, mais pour le royaume de Dieu. Je peux faire plus, je peux toucher davantage des gens, je peux avoir faire un impact qui est plus important si je suis en forme. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut une église qui est en forme. Pas juste physiquement, mais dans tous les domaines, Dieu veut une église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus revient pour une église glorieuse. Mais des fois, on regarde l'église, les églises, et on voit que ce n'est pas la foi qu'il faut croire qu'on va devenir une église glorieuse. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'il y a un moyen, il y a une recette par laquelle on peut atteindre la santé spirituelle, émotionnelle et même physique, en santé pour l'être entier. Et on va commencer à lire en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Et tout cela va de pair avec le repas du Seigneur que nous allons recevoir dans quelques minutes. Car j'ai reçu du Seigneur, est-ce que tout le monde est là? Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il vient bientôt? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, souligne ce mot indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, souligne encore cette phrase, discerner le corps de Christ, du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça, c'est assez clair, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'il y avait des personnes infirmes? Pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de malades? Pourquoi est-ce que plusieurs sont morts avant le temps? Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Jésus-Christ. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. N'est-ce pas bon que Dieu est tellement miséricordieux? Si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé. Dieu ne nous demande pas de juger les autres, de pointer le doigt et de dire, hey, « Eh oui, c'est vrai que mon frère, là, il a vraiment besoin de changer son affaire. » Ou que ma sœur, là, il faut qu'elle s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait, parce que sinon, ce n'est pas à nous de juger les autres, c'est à nous de juger soi-même. Et on continue et dit, si nous nous jugions nous-mêmes, verset 31, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On a parlé de ça même la semaine passée. L'importance de ne pas mépriser la correction de Dieu. Que Dieu corrige ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Comme un fils. Il corrige ceux qu'il aime. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'est que Dieu nous juge avec sa parole. Dieu nous juge et il nous corrige, je veux dire, à travers les autres. Et des fois, il nous corrige en nous laissant vivre les conséquences de nos actions. On a vu même que des fois, Paul a dit que j'ai livré une telle personne à Satan pour la destruction de la chair. Pourquoi? Pour que son âme, pour que son esprit soit sauvé. Donc, on voit que c'est une chose sérieuse. Si on marche en Dieu, en lui, dans l'amour, si on marche vraiment uni à Jésus-Christ, on peut mener une vie victorieuse, on peut mener une vie qui est vraiment bénie, on peut avoir la bonne santé. Et même ce verset, ça confirme encore une fois que la raison pour laquelle c'est pas normal pour l'Église d'être en mauvaise santé. Amen? C'est pas normal, c'est pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce qu'il le permet des fois? Oui. Mais est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour les chrétiens d'être en mauvaise santé? Non, jamais. Il veut qu'on soit en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la chose la plus importante. Amen. Donc, continuons. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, ça parle du repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Donc là, le Seigneur nous montre, à travers le souffle de Dieu, les Écritures qu'il nous a donné là, que lors du repas du Seigneur, il faut être conscient de qu'est-ce que nous faisons. Il ne faut pas recevoir indignement le repas du Seigneur. Parce que si on mange le repas du Seigneur indignement, on mange et on attire un jugement contre nous-mêmes. Est-ce que tout le monde voit cela? C'est pourquoi il faut qu'on se juge. Ce matin, je vous invite tout de suite. Commencez à sonder votre cœur. Jugez-vous vous-même. Jugez pas votre frère, votre sœur. En fait, c'est ça. Si vous avez de la rancune ou de l'amertume ou du non-pardon dans votre cœur concernant un frère ou une sœur dans le Seigneur, c'est là il faut que vous vous jugiez en disant, « Seigneur, je prends la décision de pardonner. » Dès maintenant, la personne est pardonnée. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on mange, il veut qu'on boive avec une conscience qui est pure et nette, sachant qui nous sommes en Jésus-Christ, comprenant et discernant le corps de Jésus-Christ. Amen. C'est un temps saint, c'est un temps sérieux et un peu sombre, on peut dire, mais quand même joyeux. Et les résultats sont énormes. Parce que quand on boit la coupe et quand on mange le pain, on participe à la communion de son corps et la communion de son sang. Nous ne croyons pas que le pain est littéralement le corps physique de Jésus-Christ, comme croient quelques personnes. Nous ne croyons pas non plus que la coupe, c'est le sang littéral de Jésus-Christ, comme croient plusieurs personnes. La Bible ne nous enseigne pas que la transubstantiation est biblique. C'est pas le cas. C'est un symbole du sang de Christ. C'est un symbole du corps de Jésus-Christ. Mais quand même, quand nous recevons avec honneur, avec foi, ces symboles, on peut quand même expérimenter la présence. Tout le monde dit la présence. La présence de Dieu d'une façon merveilleuse. On est en communion avec son sang. On est en communion avec son corps. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alléluia. Donc, plusieurs choses que j'ai à cœur de partager ce matin. En méditant pour le message ce matin, et c'est un peu différent, hein? On vient de finir une série, 9 semaines sur comment avoir une vie heureuse, et dans le fond, ça tombe vraiment pile. Après avoir vu tout ce qu'on a vu concernant marcher avec Dieu et concernant être quelqu'un qui met en pratique la parole, ça tombe bien aujourd'hui. Mais j'aimerais vous inviter à aller à Jean chapitre 6 et de voir quelque chose que Jésus a dit. Le temps de la communion que nous allons partager tantôt, c'est un temps où on peut trancher. On a dit déjà que cette année, c'est une année de séparation et de préparation. Séparer de quoi? Séparer d'avec ce monde. Séparer de tout ce qui s'allie. Séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et consacrer seulement et uniquement à Jésus-Christ pour sa gloire et pour son honneur. Amen? Amen. Dieu veut qu'on soit sanctifié. Et en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, mis à part, je vous ai déjà donné l'exemple d'une brosse à dents. Ma brosse à dents est sanctifiée. Un seul usage. Hein? J'ai une brosse à dents et ça c'est pour laver les dents, mes dents, pas les dents de n'importe qui. Vous êtes d'accord? Je ne l'utilise pas pour nettoyer la bain ou la douche. J'ai d'autres brosses à dents qu'on peut utiliser pour ça, mais la brosse à dents qui est à moi, c'est à moi. C'est consacré et mis à part. Amen? Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que son corps, son église, son épouse, sa famille soient mises à part seulement et uniquement pour lui. Tania est ma femme. C'est pas la femme de quelqu'un d'autre. C'est ma femme. Et je ne la partage avec personne. Vous êtes d'accord? Même chose, nous sommes son église, son épouse, et il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alléluia! C'est vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Jean 6, 26, je veux juste, dans vos notes, j'ai souligné plusieurs versets où vous pouvez lire dans votre Bible avec moi. On va commencer verset 26, mais juste pour vous donner le contexte, Jésus vient de nourrir une multitude. Juste, il n'y a pas longtemps avant, il y avait une multitude qui le suivait. Une multitude, au-dessus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et vous savez qu'il y avait peut-être quelques hommes qui avaient des grosses familles, des familles nombreuses. Donc, on sait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes présentes quand Jésus les a nourris avec quelques petits pains et quelques petits poissons. Vous vous rappelez de l'histoire? Il y avait des gens qui ont été affamés et qui ont été rassasiés par Jésus qui a pris un petit linge d'un petit garçon et qui a nourri la multitude. Ça, c'est le contexte. Et puis ensuite, ils sont à la recherche de Jésus. Ils veulent le trouver encore de nouveau. Verset 26 dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc la première chose dans la recette pour avoir la santé pour ton être entier, c'est de vous poser cette question. Est-ce que j'ai discerné spirituellement, tout le monde dit spirituellement, le pain de vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand vous pensez à Jésus, est-ce que vous ne pensez que à votre estomac? Est-ce que vous ne pensez que à vos besoins naturels? Parce qu'il y a bien des gens qui viennent à Jésus, pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Est-ce que c'est méchant? Non, c'est normal. Il y a des personnes qui viennent à Jésus pour être guéries. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Il y a des personnes qui viennent à Jésus parce qu'ils ont des besoins dans ce monde, dans cette vie terrestre. Ils ont des besoins et ils ont entendu que Jésus rencontre des besoins. Donc, ils vont courir par des multitudes après Jésus pour avoir leurs besoins rencontrés. Est-ce que c'est méchant? Pas forcément. Mais si on s'arrête là, si on mange le pain que Dieu nous donne, dans le naturel, si notre estomac est rassasié et plein, et ensuite on dit, bon, ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien, je pense que je vais aller à cette église encore une fois. Je vais aller chercher Jésus encore de nouveau. Jésus a dit, vous me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasié. Cherchez pas la nourriture qui périsse, mais cherchez la vraie nourriture de la vie éternelle. Et spirituellement, je vous pose la question et je me pose la question. Est-ce que je cherche Jésus pour des raisons purement et strictement naturelles ou est-ce que je cherche Jésus de mon cœur parce que j'ai compris spirituellement qu'il est le pain de vie? Une bonne question, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'on voit? Jésus, il s'est caché même. Il s'est retiré de la foule. Il a nourri la foule et ensuite il s'est retiré. C'est un peu le contraire de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les églises. Ils cherchaient même à se cacher des fois pour voir, hey, est-ce que les gens vont venir me chercher? Et quand ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils vont venir? On va sauter jusqu'à verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, ce que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Que peut-il nous donner sa chair à manger? » C'est quoi le problème? Ils ont commencé à regarder Jésus d'une façon purement et strictement naturelle. Ils n'ont pas discerné les choses spirituellement. Parce que les choses de l'esprit sont de la folie pour l'homme naturel, n'est-ce pas vrai? Jésus leur dit, en vérité, verset 53, « Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tout le monde dit demeure. Ça, c'est un mot-clé, n'est-ce pas? Jésus n'est pas quelqu'un qu'on va juste aller lui rendre visite quand nous avons faim. On voit les personnes que pour eux, la prière, c'est comme le service au volant. Hein, j'ai besoin de deux grosses frites, une guérison, et j'ai besoin de payer ma facture, j'ai besoin d'une blonde, j'ai besoin d'un chum, j'ai besoin de telle chose, et pas de ketchup. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je dis? Pour beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. L'Église est comme ça pour beaucoup de monde. Ils viennent à l'Église uniquement parce qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose. Et ça, c'est bien correct la première fois ou même la deuxième fois, parce que c'est comme ça des fois que Dieu nous rejoint. Mais après ça, Dieu veut nous révéler que c'est pas le pain naturel dont nous avons vraiment besoin, c'est le pain de vie. C'est comme quand les personnes ont fait descendre le paralytique par le toit. Vous vous rappelez de l'histoire? Il y avait tant du monde qui cherchait Jésus. Il n'y avait pas un accès pour entrer par la porte. Donc, il y avait les amis de ce paralytique qui l'ont fait descendre devant Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Vos péchés sont pardonnés. Jésus est allé directement à la racine du problème. Est-ce qu'il cherchait le pardon du péché ou est-ce qu'il cherchait la guérison? Lui, il cherchait la guérison. Ses amis voulaient voir leur copain marcher debout. Mais Jésus a vu plus loin. Il a dit, vos péchés sont pardonnés. Et là, ils ont commencé à dire, oh, il blasphème. Qui peut pardonner sauf Dieu lui-même? Il a dit, c'est quoi qui est le plus aisé de dire? Hein? Vos péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, il a le pouvoir, l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Là, vous voyez, Jésus va toujours à la racine du problème. Et trop de chrétiens viennent à l'église et en cherchant une boîte de band-aid, de pansements. Hein, prie pour moi. Oh, on peut prier pour vous. Mais peut-être vous n'avez pas besoin de la prière juste pour ça. Peut-être vous avez besoin de chercher du plus profond de votre cœur à entrer en relation spirituelle avec le pain de vie.
Amen.
Amen. Et c'est là le Seigneur, il veut faire une œuvre profonde ce matin dans notre cœur. On va continuer. Où est-ce qu'on était rendu? Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le pain, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Vous pouvez comprendre. Mettez-vous dans les souliers de ces hommes religieux et ils entendent ce monsieur dire, il faut que tu manges ma chair, il faut que tu bois mon sang. Et si on ne pense que naturellement, on va penser que le gars est fou. Quel genre de bizarroïde est-ce qu'il est? Il dit qu'il faut boire son sang et manger sa chair, c'est dégueulasse, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais Jésus parlait spirituellement. Et en verset 60, on peut sauter jusqu'à verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Cherchez pas encore les solutions naturelles. C'est l'Esprit qui vivifie. Cherche les solutions spirituelles à vos problèmes. Amen? Je suis convaincu. La maladie, 9 fois sur 10, c'est un problème spirituel. Hein? La pauvreté, dans le fond, 9 fois sur 10, c'est un problème spirituel. Donc, les personnes n'ont pas besoin juste d'avoir un peu d'aide, un peu de secours. Oui, le Seigneur nous a appelés à aller prendre soin des pauvres, donner aux pauvres, prier pour les malades et toutes ces choses. Mais on ne peut pas juste distribuer la nourriture sans leur offrir le pain de vie qui est Jésus lui-même. Il y a beaucoup d'organismes qui ne sont même pas chrétiens qui distribuent la nourriture. Il faut distribuer la nourriture et ensuite prêcher Jésus qui est vraiment la réponse à leur problème. Amen, la solution à leur problème. Mais on va continuer, verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et il n'allait plus avec lui. Vous savez, intéressant, n'est-ce pas? Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vois-tu? Il y a bien des gens qui diraient que Jésus n'était pas un bon leader, hein? Il ne fait pas vraiment un bon travail parce que, au lieu d'attirer les gens et de les garder, il est en train de les repousser. Il est en train de dire, c'est le temps de trancher. C'est bien beau, je vous ai nourri physiquement. Mais maintenant, est-ce que vous voulez manger ma chair? Est-ce que vous voulez boire mon sang? Parce que si vous ne voulez pas manger ma chair, si vous ne voulez pas boire mon sang, vous ne pouvez pas avoir part en moi. Et plusieurs ont dit, ça c'est une parole dure, et ils se sont allés. Et ensuite, Jésus, il n'a pas dit, oh, mais écoute, c'est pas grave, si tu ne veux pas manger ma chair, je comprends, c'est un peu bizarre, mais non. Il a dit, c'est comme ça. Et je pense que le Seigneur veut une église qui est prête à manger sa chair et de boire son sang. Ça veut dire quoi? Ça c'est vraiment un langage d'une alliance. Dans une alliance, on prend deux parties, deux personnes, et ils font un échange. Et en réalité, c'est tout simplement ceci. On dit tout ce que je suis et tout ce que j'ai à partir d'aujourd'hui t'appartient. Et l'autre personne, en retour, en réponse, dit et tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Quand un homme et une femme se marient, c'est plus une question. C'est pourquoi je trouve ça de valeur qu'au Québec, la femme n'a plus le droit de prendre le nom de son mari. Je trouve ça vraiment de valeur parce que c'était un principe biblique. Les deux sont devenus une seule chair. Amen. Et c'était plus une question, c'est mes affaires, c'est tes affaires. Ça, c'est mon compte, c'est ton compte. C'est mon argent, c'est ton argent. Laisse-moi vous dire, si vous avez cette attitude, vous êtes mieux de ne pas vous marier. Parce que dès que vous êtes marié, tout ce que vous avez appartient à ta femme.
Amen.
Chaque scène noire.
Amen.
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 Et c'est la même chose, hein? Tout ce que tu as, que ce soit tes finances, que ce soit ton corps physique, c'est pourquoi la Bible dit dans le mariage que l'homme n'a plus autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et la femme n'a plus autorité sur son corps, mais c'est l'homme. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à toi et je te fais confiance avec moi et mes biens. Amen? C'est une alliance. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Si vous n'êtes pas prêt à entrer en alliance avec moi, vous êtes mieux de vous en aller. N'est-ce pas vrai ou non?
Amen.
Si vous n'êtes pas prêt à manger ma chair et de boire mon sang, d'entrer en alliance en disant tout ce que je suis, tout ce que j'ai, Seigneur, ça t'appartient. Mais je sais que tout ce que tu es et tout ce que tu as m'appartient aussi. Laisse-moi vous dire, c'est nous qui sommes le plus bénis dans l'affaire.
Amen.
On lui offre notre vie toute abîmée et il nous donne sa vie si merveilleuse. Amen. Alléluia. Verset 67 dit, Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Tantôt, on va boire la coupe, on va manger le pain. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Jésus est le pain de vie. Et je pense qu'on a besoin d'avoir faim et soif de lui. Pas juste qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Hein? On devrait être plus intéressé en qui il est, plus que qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on ne cherche que sa main, et jamais son cœur, jamais sa face. Hein, c'est comme un enfant qui veut toujours, donne-moi, je ne veux pas passer du temps avec toi, je ne veux pas te connaître, je ne veux pas te voir, mais donne-moi. Et il y a des enfants de Dieu qui agissent de même. Et je pense que c'est le temps aujourd'hui de se sonder notre cœur et de se juger soi-même en disant, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être une telle personne, je veux vraiment manger ta chair. Je veux vraiment boire ton sang entrer en alliance avec toi, devenir une seule plante avec toi. C'est profond, n'est-ce pas? Oh, et les possibilités que ça ouvre dans notre vie, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien ne sera impossible. Rien. Alléluia. Donc, ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai discerné spirituellement le pain de vie? Est-ce que je sais qui est Jésus-Christ? Savez-vous qu'il est le seul Seigneur, le seul et l'unique Sauveur du monde? Numéro deux, on va prendre un peu moins de temps peut-être là, mais c'est important quand même. Et c'est là où la plupart des gens, ils aiment méditer ces choses-là. Numéro deux, c'est est-ce que j'ai compris les bienfaits de l'Alliance qu'il a fait avec moi en offrant son corps et son sang? On ne cherche pas les bienfaits, on cherche lui. Mais en cherchant Dieu, en le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et on devrait chercher Dieu même si ces choses n'étaient pas données par-dessus. N'est-ce pas? Même si on n'avait aucune promesse, sauf que si on croit en lui, on va avoir la vie éternelle, ça devrait être assez raison de vouloir donner notre vie à lui. Et même souffrir ici sur la terre. N'est-ce pas vrai? Même subir les choses pas agréables ici sur la terre, sachant que Dieu est bon, et un jour je vais avoir la joie et l'honneur d'entrer au ciel et de vivre éternellement avec lui. Même si Dieu n'avait donné qu'une promesse de misère et difficulté ici sur la terre, on devrait vouloir le suivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné une autre promesse. Il a dit, oui, ici sur la terre, vous aurez la tribulation. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit aussi que tous ceux qui ont quitté les terres, les mers, les familles et tout le quête pour le suivre, ils vont recevoir au centuple dans cette vie, n'est-ce pas bon? Mais, il a dit, avec persécution. Amen? Ça fait partie de la promesse. Mais même si, je veux que vous saisissiez que même si je n'avais que la promesse de la persécution, je devrais suivre Jésus quand même. Mais Dieu est tellement bon et miséricordieux, il m'a donné la promesse de la persécution, mais avec ça, il a dit aussi que ceux qui sont en alliance avec lui peuvent, ici sur cette terre aussi, avoir certaines victoires. Amen? Regardons bien. On va juste lire quelques versets. Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Savez-vous que Jésus a pris votre place, tout le jugement de Dieu, toute la colère de Dieu, toute la punition que nous avons méritée est tombée sur Jésus. Jésus était comme notre paratonnerre. Vous savez c'est quoi un paratonnerre? Un paratonnerre est là à côté du grange pour prendre le coup, pour prendre le jugement, pour prendre l'éclair, pour que ça ne frappe pas la grange. Même chose, Jésus, suspendu entre la terre et le ciel, il est devenu notre paratonnerre et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Et parce que il était maudit à ma place, je suis racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi est claire. On peut lire Deutéronome 28 et 29 et voir c'était quoi la malédiction de la loi. Ça comprenait au moins trois choses, hein? Ça comprenait la mort, ça comprenait aussi la maladie et ça comprenait la pauvreté. Lisez ça vous-même et vous allez voir ces trois choses. La maladie, la mort et la pauvreté faisaient partie de la malédiction de la loi. Dieu a dit que si tu marches en tant qu'enfant d'alliance, si vous marchez selon ma parole, si vous marchez selon mes ordonnances, il a dit que je vais bénir votre pain, je vais bénir votre eau et je vais enlever au milieu de vous la maladie. C'est une promesse, n'est-ce pas? Une promesse conditionnelle. Il a dit plusieurs places. Tu as juste à lire Exode 15 et Exode 23 et tu vois, Jésus a dit, Dieu a dit que je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il a dit que je ne mettrai pas sur vous les maladies que j'ai mises sur les Égyptiens si vous écoutez ma voix. Si vous marchez dans mes voies. Amen. C'était conditionnel. Mais laissez-moi vous dire ce matin, je crois, je suis convaincu que même si je n'avais pas ces bienfaits, je devrais suivre Jésus-Christ. Parce qu'il est digne d'être suivi. Amen.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et on voit en psaume 105, plusieurs versets. « Puis il fit sortir les siens chargés d'argent et d'or dans leur tribu. Personne ne traînait les pieds. » Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il n'y avait personne qui traînait les pieds. Surnaturellement, Dieu a guéri chaque membre du tribu. Quelque chose, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il les a sauvés de l'Égypte? Il a dit, il faut que chaque famille prenne un agneau, sans tâche. Il faut que l'agneau soit immolé un certain jour, à une certaine heure. Et chaque famille doit prendre de l'hysope et doit prendre le sang de l'agneau et mettre ça sur les linteaux de la porte. Pourquoi? Parce que quand l'ange destructeur allait passer en Égypte, il allait tuer le premier-né de chaque maison, mais il a dit que quand il voit le sang, il va passer par-dessus. N'est-ce pas bon? Le sang de Jésus, le sang de l'agneau a sauvé les Israélites de l'ange destructeur. Ils ont été sauvés de la mort par le sang. Amen? Et l'ange a passé par-dessus. Et laisse-moi vous dire que le sang de l'agneau Jésus-Christ nous a sauvés de la mort spirituelle aussi. Et nous sommes délivrés de la puissance du destructeur, parce que quand le diable voit le sang, il ne peut plus nous toucher. À moins qu'on lui donne le droit de nous toucher. Laisse-moi vous dire une chose. Ils ont mis le sang sur les portes, mais ils ont fait quoi avec la chair? Avec la chair, ils ont fait cuire la chair de l'agneau, ils l'ont mangé, tout habillé, prêt à partir. Et à travers cette chair de l'agneau, ils ont reçu la force nécessaire pour marcher et de quitter l'Égypte. Moi, je suis convaincu, c'est ma conviction vraiment du plus profond de mon cœur, que Jésus est l'agneau et que le type de que nous voyons en Exode, ils sont partis en santé, ils sont partis même avec de l'or et de l'argent de l'Égypte, n'est-ce pas? Et ils ont été sauvés de la mort. Et je crois que Jésus-Christ fait la même chose pour nous. Nous sommes sauvés de la mort spirituelle. Nous passons de la mort à la vie par le sang de Jésus. Et je crois que par le corps de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Il y a quelques personnes qui croient que c'est juste spirituel. Moi, je crois que c'est spirituel et physique aussi. C'est ma conviction. Donc, et je crois que toutes les malédictions de la loi, la pauvreté, la maladie et la mort, nous sommes délivrés de ces choses par Jésus-Christ. Mais même si je n'avais pas la promesse d'avoir la santé ou d'avoir mes besoins rencontrés, je suivrai Jésus quand même. Et vous? Amen. Ou est-ce que vous venez à Jésus juste pour avoir votre estomac rempli? Posez-vous la question ce matin. Est-ce que vous aimez Jésus assez pour pour manger sa chair et boire son sang? Verset 13 de Exode 12. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Psaume 103, verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On ne cherche pas les bienfaits juste pour les bienfaits, on cherche Dieu. Mais on n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. N'est-ce pas bon que nous avons des bienfaits? Alléluia. Alléluia. Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Numéro 3, troisième question qu'il faut se poser ce matin. Et ensuite, on va spirituellement manger sa chair et boire son sang ce matin. Le Seigneur va vous demander de trancher, débarquer du trône, comme Alice a dit ce matin, et lui donner la place sur le trône. Mais si on va être en santé, il faut discerner le corps de Christ. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Car Jésus a donné son corps comme sacrifice, c'était pour nous pardonner de nos péchés, c'était pour nous guérir de nos maladies, c'était pour nous bénir aussi, sur le plan financier, je crois aussi, de pourvoir nos besoins. Mais on voit une autre chose quand on parle de donner le corps de Christ, parce que le corps de Christ, c'est qui? Est-ce que vous faites partie du corps de Christ? Donc, quand la Bible me demande de me juger moi-même, pour savoir si je sais vraiment discerner le corps de Christ. Est-ce que la question qu'il faut que je pose, c'est est-ce que je marche dans l'amour envers tous les membres de son corps? Est-ce que j'aime mes frères et mes sœurs? Est-ce que je les aime ou est-ce que je les juge? Est-ce que je les bénis ou est-ce que je parle dans leur dos? Est-ce que je les critique ou est-ce que je les édifie? Bonne question, n'est-ce pas? Parce que c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes. Plusieurs sont malades et plusieurs sont morts, la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Jésus-Christ. Et vraiment, si on regarde le contexte de ce verset, c'est surtout ça. Il a dit qu'il y avait des personnes à Corinthe qui, au lieu d'attendre les uns les autres, il y avait quelques personnes qui mangeaient tout le pain, qui buvaient tout le vin, ils s'enivraient, et s'engraissaient, et d'autres personnes n'avaient plus rien. C'est pas marcher dans l'amour quand on fait ça. Vous êtes d'accord? Donc, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un membre dans le corps de Christ? Est-ce que tu t'en veux à quelqu'un? Est-ce que tu as de l'amertume ou du non-pardon dans votre cœur? Une chose que j'ai découvert. Si vous trouvez une église parfaite, il ne faut jamais y aller, parce que dès que vous arrivez, elle ne serait plus parfaite. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'existe pas une église parfaite. Il n'existe pas un pasteur parfait, une femme parfaite, un homme parfait. Ça n'existe pas. On va toujours avoir des occasions. Pourquoi, je l'ai dit ce matin dans notre cours, dès que vous l'avez comme son enfant, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a dit par inspiration, pourquoi est-ce qu'il a dit tant des fois, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, ayant-vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, encore et encore et encore et encore. Et encore, le Seigneur, dans les Épîtres, nous exhorte à marcher dans l'unité et marcher dans l'amour et d'éviter les divisions. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? C'est parce que c'est normal et c'est naturel, c'est la tendance naturelle d'avoir les divisions dans les églises. Amen? C'est pas parce qu'une église est bizarre qu'il y a des problèmes. C'est parce que on est sur la terre. On est quand même infecté par le péché, nos corps physiques, notre chair combat et lutte contre l'esprit. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas juger, il ne faut pas se décourager, il faut prendre une décision une fois pour toutes de dire, vois-tu, j'ai mangé la chair de Jésus, j'ai bu le sang de Jésus, je suis mort, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et une chose que je sais aussi, je sais que Jean-Louis est ici, il travaille à un salon funéraire. Est-ce que tu as jamais vu un cadavre insulté ou offensé? Jamais, hein? Une chose que je sais, si on est mort, on ne peut pas être offensé. N'est-ce pas vrai? Et on doit se considérer comme étant mort au péché, mort avec Jésus-Christ. Amen? Quand quelqu'un parle dans notre dos, dans le fond, il faut savoir, il parle contre Jésus parce que je suis une seule plante avec lui. Je ne prends pas ça personnel. Je ne suis pas offensé. Je devrais, au lieu d'être offensé, est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit? Je devrais avoir de la compassion et la miséricorde pour la personne. Parce que je dis, hey, cette personne, les personnes qui souffrent vont faire souffrir les autres. C'est ceux qui ont mal qui font mal aux autres. Donc, si jamais quelque chose m'arrive qui n'est pas agréable, quelqu'un fait quelque chose qui pourrait être offensif, là, je devrais prendre une décision. Je suis mort, crucifié avec Jésus, ça ne me regarde pas. Je suis mort. Amen? Comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça, hein? Je suis mort. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Ça ne me dérange pas. Je suis mort. Tout le monde dit, hey, tout le monde fait comme ça. Je suis mort. J'ai été crucifié avec Christ. Pourtant, je vis. Mais ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça va éviter bien des problèmes dans votre vie. Bonne recette pour la santé. Au lieu d'avoir les problèmes à dormir le soir en disant, parce que moi, je sais, je l'ai vécu. Des personnes disent les choses blessantes. Ça m'a pris du temps pour apprendre cette leçon. Des personnes disent les choses blessantes Et vous savez, quand vous dirigez quoi que ce soit, quand vous êtes un leader surtout, il y a toujours quelqu'un qui a une critique, n'est-ce pas vrai? Vous savez, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Mais surtout pour ceux qui sont les gérants, les pasteurs, les chefs d'entreprise, c'est eux qui ont, les présidents, les leaders de pays, c'est eux qui ont le plus de critiques, n'est-ce pas? Et j'ai perdu bien des nuits ou de bons sommeils où ces phrases, il y a quelques petites phrases qui roulaient dans ma tête. Des choses méchantes que des personnes ont dit. C'est comme, ah, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ah, c'était fatigant, c'était blessant. Je me suis réveillé le lendemain épuisé. Ah, comment est-ce qu'il a... Ah, est-ce qu'il ne connaît pas mon cas? Comment est-ce qu'il aurait pu dire une telle chose? Je l'aime. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est quand les personnes qu'on aime et pour qui on a donné notre vie, quand eux font des choses qui nous blessent, ça c'est la pire, n'est-ce pas? J'ai dû apprendre, tu sais, je suis mort. Et je sais que qu'est-ce que mon père dit à propos de moi, c'est la seule chose qui compte. Peu importe ce que les autres disent, si mon papa aussi a dit, je t'aime, tu es mon enfant, tu es la prunelle de mes yeux, tu es merveilleux, et je suis pour toi, qui peut être contre toi, qu'est-ce que l'homme peut faire, l'Éternel est ma lumière et mon salut, ouh, je craindrai rien. C'est là où on a la santé et la paix. Amen. Si les hommes peuvent venir servir ceux qui sont prêts à venir nous servir le repas du Seigneur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut chercher Tania. Oui, amen, tu peux... Alléluia. On ne va pas se débrancher. J'ai pris pas mal de temps ce matin. Parce que je crois que les choses qu'on a partagées sont importantes. Est-ce que vous le croyez? Jésus est le pain de vie. Jésus nous invite à manger sa chair aujourd'hui et de boire son sang. Jésus nous invite à entrer en alliance avec lui. En fait, laisse-moi vous dire une chose. Jésus nous invite à perdre notre identité pour le retrouver en lui. Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que j'ai dit? Jésus nous invite à perdre notre identité, le grand moi, le grand je. J'ai besoin. Je veux. Moi, je. Il veut que ça soit remplacé par lui, il. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. On va prendre juste un instant ce matin. Je vous invite à fermer les yeux même. Si on peut fermer cette porte qui est juste là, ça serait bien. Merci. Alléluia. J'ai ressenti dans mon esprit que Dieu voulait vraiment avoir un temps de guérison. Mais ce n'est pas un temps de mettre les pansements sur les bobos extérieurs. C'est vraiment un temps de chercher et d'aller jusqu'à la racine de nos problèmes. De s'abandonner à lui. De retrouver notre premier amour. Je sais une chose, je suis reconnaissant ce matin, parce que je sais qui j'étais avant. Je sais que j'étais sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Sans Jésus, je suis vraiment nul, rien. Je le sais. Quand je pense à son amour, je pense à son sacrifice, quand je réfléchis que celui qui est parfait, celui qui n'a jamais fait aucun mal, celui qui n'a jamais menti, quand je pense que c'est lui qui est le pain de vie, qui est descendu du ciel, qui a pris ma place, c'est moi qui étais le pécheur, c'est moi qui étais perdu. C'est moi qui avais tort. Mais Jésus, par son amour, a pris ma place. Je je veux perdre mon identité pour le retrouver en lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et avant qu'on reçoive le repas du Seigneur ce matin, j'aimerais donner cette occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec tous les yeux fermés ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, j'ai jamais donné ma vie au Seigneur Jésus pour vrai. J'ai peut-être cherché sa main des fois, mais j'ai vraiment pas donné mon cœur à lui. Jésus n'est pas encore sur le trône de ma vie. S'il y a des personnes qui diraient ce matin, pasteur, je suis même pas sûr d'avoir la vie éternelle. Je suis même pas sûr que j'ai mangé pour la première fois même le pain de vie. Tu n'es pas convaincu d'avoir une place réservée pour toi au ciel. J'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes ici et vous voulez venir à Jésus, vous voulez parce que le Saint-Esprit travaille votre cœur. Personne ne vient au Père que si l'Esprit l'amène. Et si vous avez le moindre désir de vous approcher de Dieu, c'est une preuve ce matin que Dieu est à l'œuvre dans votre cœur. Il vous donne le vouloir et le pouvoir selon sa bonne volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec les yeux fermés qui lèverait la main en disant, « Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sûr et certain que je suis né de nouveau, que je suis enfant de Dieu. » Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Il y a une autre personne. Trois personnes ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jésus est le pain de vie. On ne devrait pas avoir honte de lui. On ne le cherche pas pour qu'est-ce qu'il fait, mais on le cherche pour qui il est. Le pain de vie. Le pain de vie. On va prier cette prière pour et ceux qui ont levé la main. Je vais vous demander de prier cette prière de tout votre cœur. Et je vais demander à tous les autres de prier avec eux. Père Céleste, je m'approche de toi au nom de Jésus. Je suis prêt à perdre mon identité pour le trouver en Jésus. Je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Il est mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais le suivre jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Je tourne mon dos au péché et je change de direction. Au lieu de vivre pour moi-même, je vais vivre pour Jésus. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Entre dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle création par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces trois personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Merci Seigneur Jésus que ce sont des nouveaux frères et sœurs dans la famille de Dieu. Alléluia. Et si les hommes veulent commencer à distribuer le pain et le jus, je vous invite à prendre cela et de tenir le jus dans votre main, de tenir le morceau du pain dans votre main et on va tous manger ensemble. En espérant que vous avez déjà pris un peu de temps ce matin d'examiner votre cœur pour ne pas manger indignement. Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez digne en vous-même, parce que personne n'est digne en lui-même pour s'approcher de Dieu. On vient à lui, il nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On s'approche de toi. On veut faire, Seigneur, un seul pain, une seule plante avec toi, Seigneur Jésus. Sondez votre cœur. Est-ce que vous avez discerné spirituellement le pain de vie? Est-ce que vous vous rappelez des bienfaits? Si vous êtes malade dans votre corps physique, c'est un des meilleurs temps pour recevoir la guérison. On n'a pas besoin d'imposer les mains sur vous ce matin, mais en prenant le pain et le sang, vous vous rappelez de l'alliance que vous avez faite et que Dieu a faite avec vous. Et vous pouvez lui remercier, Seigneur, merci que par le sang de Jésus, je suis sauvé. Par les meurtres et ceux de Jésus, j'ai été guéri. Alléluia. Recevez votre guérison ce matin. Mais sondez votre cœur surtout. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, prenez une décision d'aller régler le problème avec lui dès que possible. Prenez une décision maintenant de pardonner comme Christ nous a pardonné. Et il nous a pardonné gratuitement et complètement. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et on devrait être capable de pardonner et oublier les péchés des autres. Nous sommes morts. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je suis citoyen du ciel. Je suis enregistré au ciel comme citoyen de la ville céleste. Ma vraie demeure, ma vraie maison, c'est au ciel. D'où je viens, d'où j'attends le Seigneur Jésus qui va venir en toute sa gloire avec ses anges pour nous chercher bientôt. Je marche avec Dieu et je marche avec mes frères et mes sœurs dans l'amour. Je refuse de parler contre eux. Je refuse de prendre l'offense. Merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Si tout le monde est servi, on va prendre cette décision et on va prendre ces symboles dans juste une minute. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je ferme mes yeux dès que vous êtes servi et sondez votre cœur. Alléluia Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Est-ce que vous ressentez la présence douce du Seigneur ce matin? Il est là et il nous aime. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, ce matin, en prenant ce pain, on prend la décision de perdre notre identité en toi et de le trouver en Jésus-Christ, Seigneur. On prend la décision d'entrer, Seigneur, et pour ceux qui sont déjà entrés, de se rappeler de l'alliance que nous avons faite avec toi et que tu as fait avec nous. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Ma vie ne m'appartient plus. C'est toi qui m'as acheté. C'est toi qui m'as racheté. Donc prenons et mangeons en se rappelant du fait que nous sommes une seule plante avec Jésus-Christ ce matin. Merci Seigneur, ma vie t'appartient. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir la coupe ce matin. Nous sommes prêts, Seigneur, pas juste de boire du jus, mais de se rappeler du fait que nos vies t'appartiennent. Nous sommes en alliance avec toi, Seigneur Jésus. Jésus nous invite à prendre cette coupe ce matin, mais il y a une responsabilité. On ne boit pas indignement, mais en sachant que Jésus a payé le prix ultime pour nous racheter. Son sang. Actuellement, Jésus est monté au ciel avec son propre sang. Il a purifié les choses d'en haut. Il a présenté son sang dans le tabernacle, le vrai, au ciel. Son sang existe toujours, son sang est puissant. Et c'est son sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés. C'est son sang qui nous a donné cette vie nouvelle, qui nous a fait passer de la mort à la vie spirituelle. Merci pour le pain de vie et merci pour ce sang. Donc prenons et buvons avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur Jésus. Je reste sensible. Laissez l'Esprit de Dieu travailler votre cœur. Alléluia. Juste restez vraiment sensible à l'Esprit Saint. On va essayer de ne pas trop bouger. Juste remettez votre petite coupe si vous voulez, mais on va faire un dernier chant. Mais j'aimerais que vous attendiez chanter ce chant avant de partir ce matin.